Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma.
Bonjour à tous, bienvenue dans C'est ça la France, l'émission qui met en lumière les talents français. Justement, en parlant de talents, la semaine dernière a eu lieu le salon de l'épicerie fine Gourmet Sélection. Pendant 2 jours sont réunis les professionnels de la gastronomie, des métiers de bouche et comme chaque année, Gourmet Sélection récompense les meilleurs produits exposés sur le salon à travers son concours Les Best-of. Quelles sont ces nouveautés qui feront les tendances de demain? Je vous propose d'en découvrir deux entreprises talentueuses qui proposent des produits de qualité, innovants, originaux et les plus proches de la nature. La naturalité est très importante cette année aux sélections gourmets. C'est parti pour notre spéciale épicerie fine de demain et tout de suite, direction l'Île-Dieu.
Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma.
Et nous sommes avec Quentin Camus de chez La Sablaise et la conserverie d'Île-Dieu. Bonjour Quentin.
Bonjour, bonjour.
Je suis contente de vous avoir, je sais que vous devez prendre la mer dans quelques minutes.
Ouais, mais dans 5 minutes. Ouais.
Dans 5 minutes. Et justement, on voulait vous entendre, vous faites partie de ces best-of 2021 de Gourmet Sélection dans la catégorie poisson. Vous avez présenté un produit qui a séduit, est-ce que vous pouvez nous le décrire?
Bah écoutez, oui, c'est le thon fumé de l'Île-Dieu, c'est une spécialité de l'Île-Dieu depuis pas mal d'années, c'est un thon blanc germont, donc qui est pêché au large de l'Île-Dieu, qui est débarqué au Sable d'Olonne.
Et fumé à la conserverie de l'Île-Dieu.
Voilà, fumé au bois de hêtre, au sel sec, et voilà, c'est un super produit qu'on déguste à l'apéritif.
Alors, c'est avant de revenir sur ce savoir-faire hein, traditionnel, vous avez dit que vous pêchez donc le thon germont, pourquoi du thon germont par rapport à du thon albacore ou je sais pas, un thon rouge. Pourquoi le thon germont?
C'est le thon en fait qui vient de chez nous en fait tout simplement. Hein. C'est un thon qui migre des Açores jusqu'en Irlande. Donc ça passe dans le golfe de Gascogne et puis voilà au large de l'Île-Dieu on a pas mal de pêcheurs et c'est le thon vraiment qui vient de notre région. Voilà, il faut savoir que l'Île-Dieu c'était le premier portonnier de France dans les années 50-60. Donc on a une vraie culture du thon ici.
Est-ce qu'il y a une différence au niveau de la chair ou c'est vraiment parce que c'est juste le thon de chez nous?
Bah, y a une différence, ouais, c'est une différence sur la chair, il y a une différence sur le poids du poisson, il y a une différence sur les méthodes de pêche aussi, voilà, une méthode de pêche plus durable, plus voilà,
c'est ultra surveillé, hein, le thon germont, effectivement.
Ouais.
Alors, au niveau du process de fabrication, hein, justement, c'est un savoir-faire qui a été pratiqué pendant plus de 60 ans par la famille Hennequin, ça a été racheté par La Sablaise, hein, l'entreprise que vous dirigez récemment, en 2018. Voilà. C'est quoi exactement le savoir-faire spécifique de l'Île-Dieu? Vous avez dit que c'était fumé, c'est-à-dire?
Bah, le savoir-faire, c'est de savoir déjà bien travailler le produit, bien sélectionner les poissons, donc ça c'est déjà important. Puis ensuite, c'est la méthode de fumage qui est très longue en fait. Hein. On est sur des méthodes artisanales, donc tout est long en fait dans le process de salage. Donc on le sale à la main, au sel sec. Ensuite, on va sécher plus longtemps qu'un industriel. On va fumer plus longtemps qu'un industriel. Voilà, c'est tout dans le savoir-faire du temps. Voilà.
Et au niveau du public, parce qu'à Gourmet Sélection, vous avez pu faire donc des dégustations, comment a-t-il réagi? Est-ce qu'il est étonné? Est-ce qu'il redécouvre justement le goût du thon germont fumé?
Je pense que oui, le public est assez étonné, parce qu'en fait, ça fait pas très longtemps qu'on est en train d'essayer d'amener ce produit sur le continent. Donc c'est surtout la forme du produit qui interpelle, parce que c'est dans un filet, comme un saucisson en fait.
Ouais.
C'est pour ça qu'on est sur l'Île-Dieu, on l'appelle le saucisson de thon. Et surtout, voilà, la forme qui interpelle les gens.
Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est votre démarche. Parce qu'il y a vraiment une volonté de sauvegarder justement cet artisanat dans ce secteur. Valoriser ces traditions locales, j'ai envie de dire.
Bah, nous, voilà, c'est un peu le combat qu'on mène à La Sablaise et du coup maintenant à la conserverie de l'Île-Dieu. C'est de préserver des emplois, c'est de préserver un patrimoine. Donc au-delà, voilà, le fait d'avoir gagné ce prix nous permet aussi de développer l'Île-Dieu, hein, pas que la conserverie de l'Île-Dieu.
Quel est votre lien, vous, avec justement l'Île-Dieu? Vous êtes originaire du coin ou pas du tout? C'est pour le savoir-faire que... Ah, oula, pas du tout.
Non, pas du tout.
Vous êtes d'où?
Voilà, alors moi, c'est assez rigolo, mais je suis des Alpes-Maritimes, donc...
Ah oui, rien à voir.
Rien à voir, mais bon, voilà, je suis maintenant, je suis adopté par la Vendée, par l'Île-Dieu.
Mais alors, qu'est-ce qui vous a séduit, justement? Comment ça se fait qu'il y a eu cet amour, justement, pour cette tradition vendéenne?
Bah, c'est des rencontres, hein. C'est des rencontres de personnes, c'est des rencontres de la famille Hennequin, voilà, avec qui on a bien matché. Et puis voilà, c'est des rencontres de la vie qui fait que on arrive à des belles histoires comme ça. Et puis surtout le lieu, voilà, le lieu est magnifique, l'endroit est sympa, les habitants sont au top. Donc, voilà.
Alors, du coup, c'est un produit qui est très connu dans la région. Et vous, justement, vous souhaitez le faire connaître au niveau national, enfin encore plus, hein. Développer ce savoir-faire.
Voilà, on veut le développer. Alors, on veut pas non plus, on va rester à notre échelle. Hein. C'est une petite entreprise, on est une quinzaine de personnes. Voilà, nous, on veut que le produit reste toujours identique. On veut que le produit reste très qualitatif. Donc bien sûr, on va le développer, mais à notre petite échelle.
Alors, une petite question, c'est juste par curiosité. Vous êtes sur un bateau. Alors, je crois que vous allez au Syrah, à Lyon également. Voilà, vous partez en bateau à Lyon là ou pas?
Je suis sur l'île-Dieu. Donc, j'arrive juste. Il y a juste la traversée qui dure 45 minutes. Et ensuite, je vais prendre l'avion direction Lyon pour un énorme salon encore, le salon du Syrah, pour encore représenter nos produits.
Voilà, donc c'est vrai que pour vous aujourd'hui, le plus important, c'est justement d'aller de salon en salon, tous ces lieux justement où il y a un coup de projecteur qui est mis sur, sur l'épicerie fine, sur l'excellence à la française, la gastronomie. Et là, vous allez à la capitale de la gastronomie française, attention.
Ouais, et puis surtout, ça fait 2 ans et demi qu'on bouge pas trop à cause du contexte sanitaire.
Donc, c'est vrai, vous avez raison.
Donc voilà, maintenant, on va avoir plusieurs salons, donc on peut montrer notre savoir-faire à tout le monde.
Ah là là, ça fait plaisir de vous écouter. Merci beaucoup. Je vais vous laisser tranquillement rejoindre la terre ferme pour prendre votre avion.
Je suis en train de partir là, donc.
Bon, on a pu vous avoir au téléphone. Voilà, c'était bien de pouvoir mettre en avant ce poisson fumé de façon très traditionnelle et qui est assez déstabilisant pour avoir eu l'occasion de le goûter. Je reconnais que voilà, c'est étonnant, et ça fait plaisir de redécouvrir justement cette épicerie fine qui se veut qualitative, originale et surtout qui souhaite vraiment défendre les savoir-faire, notamment les savoir-faire patrimoniaux. Merci beaucoup Quentin Camus de chez La Sablaise. Et bon Syrah alors, bon salon à Lyon.
Merci beaucoup.
Allez, bonne traversée. Au revoir.
Merci, au revoir.
Allez, on va se quitter un court instant et on se retrouve juste après dans notre spécial épicerie fine de demain, avec un autre secteur dans lequel on innove aussi, avec là encore cette qualité qui est importante et la naturalité. Des infusions haut de gamme, 100% naturel, à tout de suite.
Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma.
Nous voilà de retour dans notre spécial épicerie fine de demain. Un secteur là encore où on innove constamment. C'est vraiment là, on vous propose des produits de qualité, des produits originaux, des produits qui se veulent les plus proches de la nature. La naturalité est au centre même des critères d'ailleurs de sélection du Best of Gourmet Sélection. Effectivement, il y a la semaine dernière, le salon Gourmet Sélection a eu lieu pendant 2 jours et a réuni les meilleurs de l'épicerie fine. Et là, on va s'intéresser à des infusions haut de gamme, 100% naturelles.
Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma.
Ils ont eu le best-of, boissons sans alcool, thé, café, infusion, Zesty, bébé ou Bibi ou bébé, Barbara Schwartz et Bruno Donacimento. Bonjour à tous les deux.
Merci pour l'invitation.
Merci.
On dit bien Zesty bébé, c'est bien ça?
On peut dire Zesty baby.
Zesty baby. Alors, vous êtes les fondateurs de cette jolie marque d'infusion. Elle a été créée là aussi récemment en 2018. Alors expliquez-nous justement, vous êtes devenus les premiers fournisseurs de thé d'infusion de Bali. Expliquez-nous pourquoi Bali. On va commencer avec vous, Barbara. Pourquoi Bali?
Alors tout d'abord, Bali, c'est un coup de foudre. On est parti
mutuel.
Voilà, oui. On est parti là-bas. Bruno, ancien barman, il dira du Royaume-Uni. Donc il est meilleur barman du Royaume-Uni. Il aimait tout ce qui était mixologie et tout. Moi, passionnée des thés et infusions, on va à Bali. On se rend compte qu'il y a des merveilles, des plantes. On goûte dans de l'eau des infusions et là on se dit il y a quelque chose. Et on a pensé, comme Bruno, il trouvait qu'il y avait l'attrait pour les cocktails et s'est dit pourquoi pas avoir ce même attrait mais pour les boissons saines.
Il y a une culture de l'infusion à Bali ?
Il y a une culture qui est peu connue, même pour l'Indonésie. Aujourd'hui, on en discutait encore avec l'ambassade d'Indonésie à notre déjeuner. Et en fait, ça se développe beaucoup. Ils utilisent beaucoup en fait, des herbes médicinales pour... pour se traiter. Soit alors Bali, c'est connu pour les massages.
Oh
et
oui.
Aussi, voilà. Donc ça va pour très les, bien dans
pour les noces, pour les voilà,
le yoga.
Pour, le yoga.
Et ils utilisent beaucoup de plantes. Donc c'est, on a rencontré ces herboristes, fermiers. Et l'idée, voilà, c'est d'où ça s'appelle aussi. On va plus loin qu'une infusion, un drink smart, parce qu'on pense à la smart food, mais pas assez au drink smart, à la boisson saine. Boire sain, c'est très important aussi. Donc du coup, voilà comment Zesty bébé est né. Et pour se démarquer aussi de ce qu'il y a sur le marché, vraiment, les idées, moi j'ai eu la chance de travailler, j'étais dans l'hôtel au Dorchester, il y avait le restaurant Alain Ducasse, je les voyais comment ils travaillaient, chercher le produit différent, aller au bout des choses, et c'est ce qu'on souhaite faire avec Zesty en fait. Et on a des autres blends en cours qui vont arriver en cours d'année et qui vont être aussi très différents de ce qu'on peut trouver.
Alors, vous avez évoqué les restaurants Ducasse. Est-ce que vous avez constaté, c'est une remarque que j'ai souvent entendue, notamment pour le café, que pendant longtemps, dans les restaurants, donc on privilégiait donc l'entrée, le plat, le dessert, mais le café, bon, voilà. Ouais. Et maintenant, ouais. Il y a une envie de proposer des cafés de spécialité. C'est la même chose pour les infusions. Pendant longtemps, vous sortez de la petite infusion, la verveine, le tilleul menthe.
Bah, tout à fait. Moi, souvent, je l'ai dit. Il y a même des fois, j'aime pas le café. Et il y a des fois, j'ai pris du café parce qu'il n'y avait pas des bons thés ou des infusions, vous voyez.
Ouais.
Et en fait, moi, ce que je dis, c'est souvent, quand vous allez dans un bon restaurant, c'est un voyage du début à la fin.
Exactement. Et, c'est et comme, la touche finale est
c'est
très importante.
Voilà, comme un film, comme vous voyez, c'est le début, c'est la fin. Et souvent, ils ne soignent pas la fin. Mais la fin, c'est aussi important que tout le reste. Et c'est pour ça que nous, les infusions à Bali, c'était important. Et là où on est fiers, c'est qu'on est les premiers à importer aussi des infusions. Et c'est plus, c'est pas juste importer, c'est on crée avec eux. C'est un réel partenariat franco-indonésien. Et c'est ça qui est beau et qu'on grandit ensemble. Là, on a aussi choisi des fermiers qui font du sans pesticides, mais qui n'avaient pas encore le label. Et on les aide à grandir ensemble et à avoir l'éco-cert. C'est pour ça qu'on si on a des contacts avec l'ambassade. Et donc, c'est un beau partenariat tous ensemble, grandir ensemble, évoluer. Et c'est ça aussi l'entrepreneuriat. C'est on peut créer des ponts, en fait.
Oui, c'est à vous créer des ponts. La matière première sur place, vous travaillez avec eux parce qu'ils ont effectivement les meilleurs ingrédients au monde. Par contre, la mise en packaging, enfin le... l'emballage, tout est fait en France. Après, il y a cette volonté vraiment de créer un lien entre le Made in France et le Made in Indonesia.
Exactement, c'est ça. Oui, c'était de sourcer le paquet aussi, de trouver le paquet qui est 100% recyclable, qui est fabriqué sur mesure. On a voulu aussi le packaging blanc, on ne retrouve pas beaucoup ça dans les infusions, pour montrer la pureté en fait, du produit. Et en fait, c'est juste le produit à l'intérieur, et lui-même, quand il infuse, c'est là où on a les couleurs. Donc c'est ça qu'on avait voulu, et par l'expérience de la restauration derrière, une étiquette un peu qui va se rapprocher du cognac, du vin, on a vraiment, on s'est inspiré de ces choses-là pour se démarquer. Et puis en fait, c'est juste notre histoire. Voilà, moi, mon côté mixologue, comme on va dire. Maintenant, je suis dans l'herbologie. Et puis Barbara, pour sa passion aussi des goûts, des saveurs.
Et bon, alors, avant justement le côté mixologue, on va y venir tout de suite au niveau des compositions, des mélanges étonnants que l'on peut réussir à faire. Juste, Barbara, quelle est la différence entre votre infusion, en quoi votre infusion se distingue de celle qu'on peut trouver justement dans le commerce?
J'allais dire buvez-la.
Mais en termes d'ingrédients, qu'est-ce qui manque justement à ces infusions que vous buviez jusqu'à présent, qui vous ont donné envie de repenser l'infusion, d'aller vraiment au plus proche de la nature?
Moi, j'adore l'été infusion, donc j'en ai bu plein.
Les femmes sont très consommatrices de tisane thé, j'en fais partie.
Et après, plus on aime, c'est comme le bon vin, on devient difficile.
C'est vrai.
Et après, moi, ce qui m'a choquée souvent, c'est que vous aviez plein d'ingrédients. Vous voyez une liste d'ingrédients, on vous fait rêver et vous buvez,
y a
rien.
Ça n'a pas de goût.
Pourquoi ? Parce qu'on met des parfums. Alors qu'en fait, quand on l'a, ce que vous voyez, c'est ce que vous buvez. Et vous avez toutes ces saveurs qui vont dans votre bouche comme un palais. C'est comme un bon plat, en fait. Et vous êtes là, c'est plus de l'infusion. C'est plus
un voyage.
Il voilà, y en a qui, lors du salon, comme vous demandiez avant, en fait, lors du salon, y en a, quand ils l'ont dégusté, il y en a, ils disaient, c'est comme le bon vin. Ouais. On prend le temps, ça
oui,
se sent,
ça
se regarde. Il y a des saveurs dans le palais et c'est ça qui est génial. Donc quand vous me demandez, c'est peut-être aussi de pousser l'infusion et de montrer que c'est pas juste la verveine et la camomille, c'est pas juste quand on est malade, les clichés aussi sur l'infusion. Ouais. Hein. Et que maintenant, c'est tendance, les gens ont envie de prendre soin d'eux aussi parce qu'ils boivent, mais ils ont aussi envie de nouveautés, ils ont envie de voyager. En plus, avec le Covid, tout ce qu'il y a eu, on a envie d'évasion, on a envie de
tout en restant chez
saveurs.
Soi.
Tout en restant chez soi.
Alors au niveau des compositions, justement Bruno, c'est là où vous intervenez. Justement, comment fait-on pour trouver la composition, le mélange parfait? Et finalement, celui qui vous étonne le plus dans votre gamme aujourd'hui, c'est lequel?
Alors moi, bah on va parler de Saphir, celui-là qui a gagné le best-of.
Alors celui-là, il a une couleur incroyable. Alors racontez-nous justement l'histoire des Saphirs.
En fait, l'idée, c'est d'aller, de ne pas se limiter. Parce que généralement, on se limite, les clichés justement, ou quand on parle de thé, généralement on voit les thés sommeliers, oui mais c'est du thé, etc. Alors que dans l'infusion, on peut mélanger plein de choses, des plantes naturelles, et justement là, Saphir, c'est en fait pour copier les cocktails qui étaient bleus, le Blue Lagoon qu'on faisait. Et je me disais, comment on peut avoir ça? Et on a découvert en fait
avec
à Bali,
naturel.
Avec du naturel, et la fleur de pois bleu papillon, qui est, c'est juste une orchidée en fait, qui a besoin d'être traitée beaucoup.
Princesse.
C'est une princesse, la princesse des fleurs, comme le dit Barbara.
Qui se cueille de manière très délicate.
Se cueille de manière délicate, et l'idée c'était d'avoir en fait un peu l'attrait du cocktail du Blue Lagoon sans alcool, avec la couleur, et du goût aussi. Donc il y a du gingembre et de la citronnelle. 100% naturel, hein, sans pesticides. Et en fait, la fleur va venir même apaiser le gingembre, donc ça va être très délicat en bouche. Et c'est ça, c'est de faire voyager par des... Comme si je mélangeais, en fait, quand je travaillais au Dorchester, au Lensborough, mes cocktails avec différents cognac, vodka. Et ben là, c'est par les plantes et avec des herbologistes aussi.
Alors justement, comment vous procédez concrètement? C'est-à-dire que vous faites ça sur place à Bali ou bien non? C'est plutôt une fois rentré en France où vous faites justement toutes vos expériences avec les différentes plantes que vous avez
repérées? On voit les différentes plantes qui sont comestibles, qu'il n'y a pas trop sur le marché. Et... qu'est-ce qu'on peut faire avec? Et on essaye un mélange, un deuxième. C'est vraiment un échange.
Ça, vous faites sur place, en Indonésie en général.
En Indonésie, voilà.
Quand on peut y aller.
Quand on peut faire 20 heures de vol.
Voilà, mais c'est avec ça sur place, c'est commencer. Et voir aussi au niveau de la production, si on peut produire
bien
ça.
Bien sûr, en grande quantité.
En grande quantité. Et du coup, c'est comme ça que ça se lance. Mais c'est vraiment une idée. Nous, on est partis à Strasbourg, une idée. Après, quand on est allé à Bali, plusieurs fois, on y est retourné. En fait, c'est comme ça que les belles idées naissent. Faut pas se limiter.
On nous a pris pour des fous. Et je trouve, si on a un message à passer aujourd'hui à tous ceux qui veulent entreprendre, il n'y a rien qui est impossible. Ne vous limitez pas. Et ce n'est pas parce que les gens vont dire « Regarde, cette voie, elle est plus facile. » Peut-être celle d'à côté, elle fait un peu plus peur, mais c'est peut-être là celle qui mène vers vos rêves. Donc, ne vous limitez jamais.
Vous voulez dire que quand vous avez eu envie d'aller à Bali chercher justement les infusions les plus naturelles, on se dit, bon, là, quelle idée farfelue. Elle part avec son sac à dos, elle va revenir pareil avec son sac à dos vide.
Quand vous savez qu'il y a, tout le monde les connaît, les grands importateurs de thé et d'infusions, c'est souvent en Allemagne. Et pourquoi, les gens vont dire, pourquoi tu t'embêtes?
Le marché déjà...
Pourquoi vous avez cette idée de créer... et nous, on a d'abord la collection, c'est 5, puis elle grandit petit à petit. On n'a pas pris un grand catalogue, on ouvre une boutique avec 10 ou 100. Mais c'est ça notre différence, parce qu'on sait où on va. Et en fait, c'est ça, quand vous savez, vous voyez, ce qui vous fait vibrer, continuez.
Et vous êtes sur le haut de gamme, il faut le rappeler, ça aussi. Donc on est vraiment...
Qualité herboristerie, il y a même des herboristes qui nous contactent, parce que c'est quand vous ouvrez, en fait, c'est aussi pour ça le paquet blanc, vous ouvrez, après vous avez les couleurs.
C'est ça, on laisse... Ça embaume tout de suite.
C'est la magie du naturel.
Merci beaucoup à tous les deux. Pour terminer, je vais juste préciser à nos auditeurs que ça se boit chaud ou froid. Merci Barbara, merci Bruno, Zesty Bébé, et longue vie à cette jolie marque d'infusion 100% naturelle.
Merci Nathalie.
Allez, bon dimanche à vous, et on va partir se balader avec Thibaut, notre French Trotter.
Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut le French Trotter.
Et oui, comme promis, nous repartons dans le petit train dont vous nous aviez parlé la semaine dernière.
Et oui Nathalie, nous avions embarqué dans le train touristique qui permet de découvrir le pays de l'Albret. C'est un territoire situé au sud du Lot-et-Garonne, à la frontière du Gers et des Landes. C'est aussi, vous le savez Nathalie, j'en suis sûr, le pays d'enfance d'Henri IV. Eh bien, je vous invite à prendre votre place dans le train pour la suite de ce voyage, en compagnie de Xavier Passini, qui préside l'association qui le fait vivre. Et je lui ai demandé de me parler de ces paysages qui défilent à petite vitesse.
Alors on a essentiellement deux types de paysages. Donc en partant de Nérac, on a un paysage très verdoyant, très typique, on va dire, du Lot-et-Garonne. Et ensuite, donc sur à peu près la moitié du chemin. Et après, on passe dans un paysage un peu différent, un paysage landais. Donc de forêt des Landes, donc alors voilà, avec des terres sablonneuses, bon, une végétation qui devient quand même très différente tout d'un coup. Et après, quand on arrive vers la fin du trajet, on retombe de nouveau dans des paysages très avec une végétation luxuriante.
Est-ce qu'on croit ce fameux chêne liège? Parce qu'ici on est dans le pays du liège à Mézin.
Oui, alors il reste encore quelques chênes lièges, il y a quelques beaux spécimens encore de chênes lièges, voilà. Mais il n'y a pas que les chênes lièges aussi, au point de vue faune, il y a aussi les chevreuils et toutes sortes d'animaux sauvages. C'est très, très sympa à voir.
Est-ce qu'on peut décrire le matériel que vous utilisez? Là, sont des wagons, on dit voitures d'ailleurs, puisque voilà, ce sont des voyageurs qui prennent place. Ce sont des voitures ouvertes?
Oui, alors on a les deux. D'ailleurs, on a des voitures ouvertes et des voitures fermées. Mais enfin, on utilise plus particulièrement les voitures ouvertes, puisque bien sûr, on fonctionne essentiellement à la belle saison, donc on s'y prête mieux. Et ce sont des voitures d'origine suisse. Voilà, que nous avons racheté aux chemins de fer fédéraux suisses, les CFF,
qui nous appartiennent
en propre, voilà. Et donc c'est un matériel assez ancien, enfin qui date des années 50. Voilà, donc d'ailleurs on a certaines voitures qui ont été construites sur des plans beaucoup plus anciens, mais le matériel roulant date des années 50 à peu près.
Et la motrice, je vois, c'est du diesel.
Alors ça, c'est celui que vous voyez là, c'est un locotracteur ex-SNCF, donc qui a une longue histoire aussi, SNCF, et qu'on a racheté. Il a fait une longue carrière à la SNCF jusque vers 1995 ou 97, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, et puis mais nous avons également une locomotive à vapeur.
Ouais, c'est ça, une locomotive à vapeur en projet
Tout à fait, une locomotive à vapeur, une américaine d'ailleurs, qui a elle aussi toute une histoire puisqu'elle a participé aux opérations de débarquement des Alliés en juin 1944.
Un morceau d'histoire.
Un morceau d'histoire, voilà, exactement, qui nous est cher à tous. Et ensuite, cette machine est restée en France pendant quelques années. Et en 1946, une fois que on était sur le chemin de la reconstruction et que tout le monde revolait un peu de ses propres ailes, les Américains ont vendu ces locomotives à différents pays, dont la France d'ailleurs, et d'autres pays étrangers qui avaient souffert des hostilités. Et c'est ce que nous avons est parti en Yougoslavie pour faire une grande partie de sa carrière jusqu'en 1986. Et elle a failli être ferraillée, on l'a rachetée in extremis et on l'a faite réparer là-bas par une usine spécialisée dans la réparation de locomotives à vapeur. Et ensuite, on l'a fait rapatrier en France par convoi exceptionnel routier. Donc à travers l'Autriche, l'Italie, c'était un périple quand même assez mouvementé.
Écoutez, merci beaucoup. Donc là, le train repart vers Nérac, c'est ça?
Voilà, tout à fait. On va, après cette petite pause au bord de la Gélise, nous allons partir pour Nérac. Tranquillement, voilà, et c'est moi qui vous remercie beaucoup.
Merci beaucoup à vous.
Messieurs, dames, ouvre toutes les lignes. Nous sommes repartis pour 14 km de retour.
Merci Thibault. Alors pouvez-vous peut-être nous dire où trouver les renseignements concernant ce train pour ceux qui nous écoutent et qui ont cette chance d'être encore en vacances?
Ben c'est tout simple, ils sont sur le site du chemin de fer touristique de l'Albret, vous allez le trouver sur Google. Et pour info, ils circulent encore tous les dimanches jusqu'au 31 octobre.
Merci beaucoup Thibault, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure et même radio. Merci à vous et surtout, portez-vous bien.